Hey, bonjour tout le monde et bienvenue au 27e épisode de Divan Quest. Divan Quest, à ne pas confondre avec Divan Quest, le podcast techno gaming geek disponible à toutes les deux semaines. Ça se ressemble beaucoup, mais Divan Quest, contrairement à Divan Quest, est disponible à toutes les semaines.
À toutes les semaines!
Bonjour, je suis Mathieu Bonin, toujours en compagnie de Denis Gravel.
Salut!
Et de Jean-François Laporte.
Yeah!
Comment ça va les gars?
Eh ben...
Bon, ça n'a pas changé parce que c'est la deuxième année.
Hein? Non, c'est...
OK, ben, qu'est-ce que tu as fait de beau cette semaine, dame?
Ouais, ben, j'ai préparé des épisodes de Divan Quest, hein, comme on vient de dire. Dans le fond, je voulais juste faire un petit retour aussi, comme peut-être qu'il y a des gens qui ont pas écouté l'outro du dernier épisode, là. Donc, pour ceux qui auraient oublié de l'écouter, mettons, en disant ça de même.
On vous pardonne.
On change de formule. On va faire maintenant un épisode à chaque semaine. Donc, les épisodes seront un peu plus courts, mais... ça va être une bonne affaire.
On veut faire partie de votre routine hebdomadaire.
Voilà.
Puis comme j'ai mentionné aussi, on parle que de Minecraft maintenant.
Ah oui, c'est vrai.
J'avais dit, si, ouais.
J'ai pas reçu le mémo. Mais bon.
Non, ben, ok. Ouais, on se reprend.
peut-être pour l'an 3. Donc, ouais, ben, cette semaine, sinon, à part préparer des épisodes, j'ai passé pas mal de temps sur Reddit. Sur les Reddit de Pokémon Go, là, on en parlera. Donc peut-être qu'il y en a qui ont suivi sur les réseaux sociaux. Là. J'avais posté le Reddit /r/PokémonGo, puis je me suis moi-même repris en disant « Allez voir l'autre, de Silph Road, qui est beaucoup plus pertinent. » Voilà. Donc, avant que le /r/PokémonGo devienne une série de shitposts puis de monde qui chiale, j'avais vu passer quelqu'un qui suggérait une mini-série de 4 épisodes qui reprend l'histoire du jeu de la première génération de Pokémon Red puis Green, mettons, au Japon, ou Red puis Blue ici. Donc, une mini-série, 4 épisodes de 22 minutes qui fait vraiment le tour des jeux, qui suit l'histoire du personnage qui joue au jeu, finalement, si on veut. Ça s'appelle Pokémon Origins, sorti en 2013. Fait que c'est vraiment l'histoire de Red puis de son rival Blue. Puis c'est un beau clin d'œil là, à ceux qui ont joué au jeu original. Il y a des petits time skips entre les épisodes qui font skipper des bouts de l'histoire là, pour que ça rentre en peu de temps, mais parce que même le jeu est plus long que 90 minutes, on s'entend. Là. C'est quand même vraiment le fun. Quand un épisode finit, tu saves la game, c'est les mêmes écrans, puis quand l'épisode repart, tu reload la game comme si tu partais le jeu. C'est vraiment bien. Puis il y a un beau petit clin d'œil aussi à la fin du dernier épisode au jeu de la dernière génération, de la 6e génération. Je le dirais pas pour quelqu'un qui déciderait de l'écouter, mais il y a un petit clin d'œil qui nous ramène au fait que c'est récent. Mais sinon, c'est vraiment l'histoire originale, puis c'est vraiment le fun. Fait que je vous le suggère fortement. Cool. Niveau gaming, ben pas mal tout mon temps a été passé cette semaine sur I Am Setsuna, mais ça, je vous en reparle la semaine prochaine de ça, plus en détail.
Excellent. Couple de petits points. En fait, entre les deux enregistrements d'épisodes, il y a eu la sortie du remake de Metroid 2 sur PC, connu en tant que le AM2R, qui était pour Another Metal Gear, Metroid 2 Remake, presque pareil, qui est dans le fond le but de refaire... c'est ça, voilà. Qui était dans le but de faire Metroid 2, celui du Game Boy, dans le style de Metroid Zero Mission, comme on a eu au Game Boy Advance. Puis justement, je venais de finir Zero Mission il n'y a pas longtemps. Fait que j'ai dit, il est rendu où, ce remake-là? Parce qu'il est en développement depuis 2008, puis... Fuck, il est sorti genre là, une semaine. Fait que je l'ai testé un petit peu, ça a l'air solide. Imiter la formule Metroid a vraiment été très très bien réussi. C'est disponible gratuitement, juste à aller au metroid2remake.blogspot.ca. Évidemment, on va mettre le lien un peu partout pour que vous récupériez ça avant que Nintendo le fasse disparaître, parce que c'est hautement probable. C'est plus que probable, entre le moment où on a enregistré l'épisode et la date de publication, ben Nintendo a demandé aux créateurs du projet de faire tout disparaître les téléchargements. Donc évidemment, ils traînent encore sur des sites de torrents, donc ça va être pratiquement impossible de le faire disparaître. Mais si jamais vous le cherchez et vous ne le trouvez pas, suivez-nous sur Facebook et sur Twitter. On en a fait une copie, on va le rendre disponible un peu partout tant que ça ne nous causera pas de problème. Ensuite, j'ai une première punition pour GF.
Une première, quand même.
Ouais, une première dans cet épisode là. Quand t'as parlé de PewDiePie, t'as mentionné qu'il y avait 128 millions de vues. Le nombre me semblait un peu suspect, considérant qu'il y avait au-dessus d'une quarantaine de millions d'abonnés. Je me dis qu'il a sorti plus que 3 vidéos, puis il n'y a pas juste le monde d'abonnés qui les a écoutés. C'était plus comme 12,9 milliards de vues.
C'est une erreur de virgule.
Ben voilà.
C'est ce que j'enseigne à mes élèves, hein, l'importance de mettre la virgule à bonne place ou de la lire à bonne place.
Fait que pour une fois, les maths dans la vie auront vraiment servi à quelque chose.
Voilà.
Et encore une punition pour Jeff. Quand tu as parlé du jeu Fury, T'as rien dit qui était pas correct, là. C'est juste que ta description m'avait pas fait comprendre à quel point c'est fucking mongol, ce jeu-là.
Phew, j'avais des sueurs froides.
C'est une punition pour pas avoir généré suffisamment de hype dans ton segment.
C'est quand même assez rare que sur une vidéo qu'on poste sur la page de Divan Quest, Mathieu, sur son compte personnel, prend la peine de commenter, là. Puis là, il l'a fait.
Je vais sûrement moi aussi en reparler, là. J'ai pas vraiment eu de temps à mettre dedans. Ben, je voulais que le podcast d'aujourd'hui soit prêt. Donc, je me suis dit, j'embarque pas là-dedans, sinon je suis foutu.
Priorité.
Ils sont pas encore aux bonnes places. Ben, ma mère dirait le contraire. Mais bon, ça, c'était une histoire pour une autre fois. Fait que c'est ça pour moi, Jeff.
Cette semaine, j'ai joué à un petit jeu, en fait, qui est sorti au début du mois d'août, dans les premiers jours du mois d'août, là, dans les gratuités sur le PlayStation Network. C'était le lancement du jeu, donc qui est offert gratuitement sur les abonnés de PlayStation Plus, qui s'appelle Tricky Towers. C'est peut-être un jeu que, si vous êtes abonné au PlayStation Plus, vous avez peut-être vu passer le jeu, peut-être pas télécharger ou pas tester, parce que c'est pas un jeu qui a de l'air super attrayant d'un premier coup d'œil. Mais laissez-moi vous vendre le contraire en un petit instant.
Mieux que Fury, j'espère.
C'est différent.
On parle de la description.
Ouais.
Tricky Towers, c'est grosso modo une version modifiée de Tetris Attack, un petit peu.
Okay.
Et dans laquelle, en fait, la plus grosse différence avec Tetris, c'est que les lignes qu'on fait ne s'enlèvent jamais. Donc, on part avec une petite fondation, un petit château, puis tous les blocs qui descendent, mais construisent notre château, puis on doit monter notre tour le plus haut possible sans qu'elle s'effondre, un petit peu à la Jenga. Et c'est un jeu multijoueur, donc on joue contre l'autre joueur à côté, puis c'est le premier qui se rend jusqu'à une ligne d'arrivée en haut. Ça peut jouer jusqu'à 4 joueurs, local co-op. Chaque des personnages a un petit magicien qui a de la magie. Fait, tu peux faire des attaques sur le tour de l'autre ou sur ta tour à toi pour la protéger. C'est mon gars, il va y avoir une vidéo qu'on pourra mettre là, sur Facebook de moi et ma copine qui jouait justement. Des heures de plaisir, c'est vraiment, vraiment super cool. Fait que c'était mon petit coup de cœur de la semaine.
Pour l'actualité, dans le document intitulé Règles d'accès aux informations applicables à la diffusion des Jeux de la 31e Olympiade, rendue publique en mai dernier par le Comité international olympique, on y découvrait une provision fort intéressante destinée directement à vous, routiers de l'autoroute de l'information. Très, très, très moderne comme description.
Ah, j'aime tellement ça. Hein? À sortir des vieilles expressions que personne aimait même à l'époque.
Ben, j'ai travaillé 8 ans à vendre des ordinateurs, fait que des expressions de monde qui savent de quoi qu'ils parlent, j'en ai entendu. À la section 4, réservée aux clauses concernant les, et je cite, « interdictions et restrictions pour les non-détenteurs de droits », et plus spécifiquement à l'article 2, traitant des Internet et plateformes mobiles, on peut lire la mention suivante. L'utilisation de contenu olympique transformé en format graphique animé tel que GIF animé, c'est-à-dire GIFV, GFY, WebM ou format vidéo court tel que Vine et autres est expressément interdite.
Oui, j'avais vu passer ça.
Premièrement, c'est quoi un WebM? Mais bon, c'est pas grave parce que c'est interdit. À la publication de cet épisode, les Olympiques sont en cours et j'ai le plaisir de vous annoncer que les Jeux Olympiques de Rio sont l'événement sportif le plus GIFé de tous les temps. Bon, c'est de la spéculation, mais tu peux pas mettre de quoi de stupide de même en ligne puis penser que Reddit, c'est gâtera pas.
C'est sûr. Mais moi, je suis tout le temps triste quand on me dit que j'ai pas le droit de faire des gifs. Parce l'essentiel de mon humour. L'essentiel de mon humour visuel est comme l'essentiel de mon humour audio. Hein, ça vient de quelqu'un d'autre que je le pose juste au bon moment.
GIF ou soundboard, même voilà. Combat.
Puis dans le texte là, de loi, si on veut, là, est-ce qu'il y avait-tu comme une amende indiquée ou quelque chose comme ça?
Non, c'est interdit. Fait qu'ils ont le droit légal d'intervenir.
De l'enlever, de faire des
mais on n'a pas d'idée de quoi, à quelle pénalité ils peuvent imposer.
Bof, à rien pantoute parce que c'est ça.
Mais c'est pas des lois, tu sais, c'est les règlements des Olympiques. Fait que là, ce qu'ils peuvent dire, c'est ben, ils peuvent te demander de l'enlever puis t'as pas ou à des sites des retirer.
Son propriétaire du contenu.
On s'entend-tu que ça va juste. C'est comme n'importe quelle personne qui dit je veux pas que ça soit sur Internet pour que Reddit s'enflamme.
Voilà. Le temps attendu No Man's Sky est maintenant disponible sur PS4 et PC, mais pas sans avoir fait énormément couler d'encre virtuelle après avoir trouvé son chemin dans les mains de plusieurs webonautes avant sa date de sortie officielle. Et parmi ceux-ci, le plus célèbre d'entre eux est probablement le réditeur D-A-Y-M-E-E-U-H-N, que je présume doit se dire comme ceci.
Matt Damon!
Alors, notre cher a payé 1300$ US pour avoir le privilège de jouer à la version PS4 du jeu 2 semaines avant le commun des mortels, en achetant une copie qui s'est retrouvée sur eBay, probablement par un employé de EB Games sans scrupules et blasé, donc d'un employé tout à fait normal de EB Games. Alors, s'est empressé de réclamer son 5 minutes de gloire, sans passer go et sans réclamer 200$, et a partagé avec ceux qui voulaient bien l'entendre, mais surtout le lire, ses impressions du jeu, incluant la véritable bombe médiatique suivante. Il a atteint le centre de la galaxie, qui est décrit comme étant l'objectif final du jeu en 30 heures seulement, sans même essayer de finir le jeu rapidement. Mais comment était-ce possible? Le jeu ne devait pas prendre au minimum 6000 heures à compléter? Ou est-ce que est un savant fou qui a trouvé la clé de l'univers? À quoi sert 16 quintimilliardions d'étoiles si on n'a pas besoin de toutes les voir pour finir le jeu? Est-ce qu'il a trouvé le secret au centre de la galaxie qui a changé sa vie, tel le caramel au milieu de la caramilk? Ben, une source chez Hello Games, créateur de No Man's Sky, a avoué à Divan Quest que le jeu ne vous dévoilera pas le remède du cancer, ne justifiera pas pourquoi des gens utilisent la Polix Comic 100, et n'expliquera pas pourquoi, quand on met du gaz puis qu'on arrive à 98 cents au lieu d'un chiffron, on est déçu même si on va payer qu'une carte de crédit. Il est évident que Hello Games devra répondre à ces millions de fans déçus.
Réflexion. Sur la semaine...
Ah, le nouveau format, ça nous change.
Hein? Je suis pas habitué d'arriver aussi vite à la réflexion.
On est à moitié sourd en de réflexion.
Mais Matt, je vais t'emboîter le pas avec les Olympiques, parce que cette semaine, ben, j'ai choisi de porter ma réflexion sur deux personnages qui se retrouvent à l'avant-scène des médias et qui vont probablement monopoliser la majorité des grandes chaînes télé pour plusieurs jours. Donc, Vinicius et Tom, qui sont les deux mascottes des Jeux Olympiques de Rio.
Je pensais que ça allait être...
Matt et Damon.
Ce qui est intéressant, c'est que c'est maintenant un drop sur l'épaule. Non, mais donc Vinicius, le chat singe perroquet jaune, qui était nommé en hommage de l'auteur brésilien Vinicius de Moraes.
Lui-même un chat perroquet, truc jaune.
Jaune.
Ouais.
Donc Vinicius posséderait, selon les organisateurs, l'agilité des chats, la souplesse des singes et la grâce des oiseaux. Ses bras et ses jambes peuvent d'ailleurs s'étirer sur des distances infinies puis englober le monde. Une belle image compte tenu des tensions ethniques et religieuses qui déchirent puis séparent actuellement notre société. C'est une image qui prend d'autant plus de valeur à la lumière de l'initiative du nouveau président du Comité olympique international, M. Thomas Bach. Bach, c'est un allemand. Thomas Bach.
Oui.
Donc, selon laquelle les Jeux 2016 vont accueillir, en fait, cette semaine, une première équipe composée de réfugiés en lui permettant de compétitionner à titre de participant indépendant sous le signe du drapeau olympique, donc à défaut de pouvoir représenter leur propre pays natal. Mais pour les quelques 11 000 athlètes qui ont pris la direction de Rio cette semaine, l'objectif est super clair, c'est monter sur le podium. Donc, des années d'entraînement puis de sacrifices difficiles pour monter un escalier de 3 marches. Come on, guys.
Hey, même moi, je suis capable de faire ça sans être essoufflé.
Wow. Un petit peu.
3 marches. Ça va.
Mais une chose est sûre, tous ceux qui vont revenir au bercail avec une médaille au cou vont être accueillis en héros. Pour les athlètes, c'est un appel de l'aventure comme on le retrouve dans tant de livres, d'histoires, de films puis de jeux. C'est ce que l'auteur Joseph Campbell appelait le monomythe ou la théorie selon laquelle toute narrative héroïque, c'est juste une variation d'une seule grande histoire, soit le voyage du héros ou en anglais « The Hero's Journey ». Les analystes linéaires ont tenté d'établir avec les années les différentes étapes de ce voyage-là, puis peu s'entendre sa version exacte de la grande histoire, mais toutes les versions se résument à peu près à ça. C'est un homme ordinaire forcé de quitter sa maison pour une aventure, qui obtient une victoire décisive face à une crise majeure, puis qui retourne à la maison changé et transformé. Donc, Star Wars, Harry Potter, The Hunger Games, Frodon puis son prince Albert, toutes les narratives du cinéma moderne se rapportent au concept du Hero's Journey. Puis le gaming, il fait pas exception. Est-ce que Danny, tu sais pas c'est quoi un prince Albert?
Non, c'est pas ça le point. Je trouve ça drôle parce que je parle de ça dans mon segment la semaine prochaine.
On revient aux moutons.
Oui.
Ou plutôt, on revient à nos héros. De Master Chief à Lara Croft, en passant par Mega Man puis Mario, les héros de nos jeux traversent eux aussi des nombreux obstacles. Puis les personnages qui arrivent au crédit ou au kill screen avec nous, sont souvent bien différents de ceux qui nous ont accueillis après avoir appuyé sur Start 40 heures plus tôt. Même que parfois, c'est le joueur qui ressort grandi de l'expérience puis qui, malgré lui, revient à la réalité avec un bagage inattendu. C'est le cas notamment de M. Paxton Galvanic. Et non, c'est pas la nouvelle recrue des Canadiens de Montréal.
Oh.
C'est plutôt un avis de joueur du jeu America's Army qui, en 2007, il a sauvé la vie d'un conducteur après un accident sur la route grâce à ses nombreuses heures de jeu. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers avec America's Army, c'est un FPS, donc un jeu de tir à la première personne.
Il a mâché F.
C'est la troisième fois qu'on en parle de ce jeu-là sur le podcast.
Ça a laissé ses marques quand même. Non, mais en fait, c'est un jeu de tir à la première personne qui a une reproduction ultra réaliste des missions de l'armée américaine. Puis dans le jeu, si on veut prendre le rôle du médic, on doit commencer par suivre un cours virtuel de premiers soins qui est basé sur l'entraînement réel suivi par les soldats. Donc, quand Galvanek a aperçu un véhicule accidenté sur la route, ben, il s'est empressé de venir en aide au conducteur en l'éloignant du véhicule en appliquant une serviette sur ses blessures puis en lui demandant de placer son bras au-dessus de sa tête pour éviter la perte de sang supplémentaire. Donc, Galvanek a sauvé la vie d'un homme et a été ensuite reconnu par la ville comme un héros pour ses gestes.
Ce qui est le fun aussi, c'est qu'il aurait pu prendre un cours de premiers soins de base.
Mais
puis il n'aurait pas été endoctriné en même temps.
Il n'a pas le temps, il jouait à des jeux.
On appelle ça apprentissage tangentiel.
Oh, ouais. C'est une belle histoire, là. Voilà. C'est juste que j'ai de la misère avec ce jeu-là, vraiment beaucoup. Fait.
Mais on peut, pour les fois qu'il fait de quoi de bon, ce jeu-là, on va le prendre.
Mais Dan, tu vas être content d'entendre que même World of Warcraft peut forger des véritables héros. Il y a deux jeunes Norvégiens de 12 ans, un garçon puis sa sœur, qui se sont retrouvés face à un orignal en forêt.
Ah oui, j'avais déjà entendu celle-là.
Et pour sauver sa sœur, Hans Olsen, le petit garçon, il a dit avoir appliqué ses skills de WoW pour gérer l'aggro de l'orignal puis l'attirer loin de sa sœur. Il a ensuite utilisé un skill de Hunter niveau 32 pour fin de la mort en attendant que l'orignal décide d'aller voir ailleurs. C'est une histoire vraie.
Bye, ouais. Niveau 32, se couche à terre, pas bouger.
Il a allé pogner l'aggro, mais il a fait fin de dette comme un Hunter.
Ouais, ensuite, il a monté trois marches, tu sais. Ouais. Ben, en fin de compte, que nos jeux soient vidéo ou olympiques, on s'aperçoit que pour être un héros, on doit juste être prêt à affronter les risques pour se mettre au service de ceux dans le besoin. Ce qui m'amène à vous parler de ce qui m'a réellement motivé à écrire la réflexion de cette semaine, soit l'histoire de Yusra Mardini. C'est une des 10 athlètes indépendants de l'équipe des réfugiés des Jeux de Rio. Elle était déjà suivie par le comité olympique syrien depuis 2012. Yusra et sa sœur Sarah ont décidé de fuir la Syrie après que leur maison ait été détruite durant la guerre civile en août 2015, donc voilà un an, quand elle avait seulement 17 ans. Après avoir voyagé au Liban puis en Turquie, ils ont pu arranger leur transport illégalement vers la Grèce sur un navire avec 18 autres réfugiés. L'embarcation en question était conçue que pour le transport de 6 ou 7 personnes. Donc, moins de 30 minutes après leur départ, le moteur avait déjà lâché puis le bateau prenait l'eau. Yusra, Sarah puis deux autres hommes à bord étaient les seuls à savoir nager, donc ils ont sauté à l'eau puis ont poussé l'embarcation pendant des heures en pleine mer Égée jusqu'à l'île de Lesbos.
Wow.
Sans les rêves olympiques d'une jeune Syrienne puis de ses nombreuses heures passées à s'entraîner dans des piscines dont les toits avaient été détruits par les bombes, ces 18 hommes, femmes et enfants qui n'auraient pas eu la chance de regarder les Jeux olympiques de Rio aujourd'hui. Parce que dans le fond, je pense qu'il est temps que les gens voient les réfugiés pour ce qu'ils sont vraiment. C'est des gens ordinaires forcés de quitter leur maison pour une aventure, qui obtiennent une victoire décisive face à une crise majeure, qui retournent à la maison changés et transformés. C'est The Hero's Journey.
Hey, on change de format, mais je me remorque encore à Philly Jeff après.
Je m'excuse.
On a changé le format, on s'est assuré que tu serais toujours Jeff.
Donc, aujourd'hui, dans l'univers du Divan Quest, 15 août, je commence ça en 1483. 1483, consécration de la chapelle Sixtine, qui lui donne officiellement là, naissance comme lieu de culte, parce que c'est pas la construction, le début, mais c'est vraiment au moment où est-ce qu'ils font le rituel religieux là, de la consécration. On ne sait pas c'est quoi. Là. Donc, les chrétiens peuvent, à partir de ce moment-là, là, officiellement regarder des petits anges tout nus en toute légalité et en toute moralité aussi. J'avance en 1877. Thomas Edison envoie une lettre au président de la Central District and Printing Telegraph Company de Pittsburgh pour proposer de dire « allô » quand on répond au téléphone pour indiquer qu'une connexion a été établie. Son confrère à l'époque, compétiteur, si on veut, là, Alexandre Graham Bell, lui proposait de son côté « ahoy
hein, »,
nous laissant ainsi connaître ses origines de
« do what you want, 'cause a pirate is free, you are a pirate ».
Mais j'imagine quand même, tu réponds au téléphone, ahoy!
Je pense que je vais commencer ça.
Ça commence bien la deuxième année du Divan Quest.
J'avance en 1945, oui, le 22 août, discours de reddition du Japon qui va mener à sa capitulation en septembre pendant la Deuxième Guerre mondiale. J'avance en 1977, le radiotélescope Big Ear intercepte un signal radio puissant d'une durée de 72 secondes et d'origine inexpliquée. Le signal n'a pas été redétecté ou détecté de nouveau depuis cette époque-là. Ce signal-là mettons des gros guillemets, là, pourrait être d'origine extraterrestre, étant donné sa fréquence. Là. Donc, c'est pas, on ne sait pas c'est quoi, mais c'est dans des fréquences radio qui pourraient être des fréquences utilisées par une forme intelligente, parce que c'est des fréquences que nous utilisons pour ça. C'est même la fréquence qu'on avait utilisée pour envoyer un signal de bonjour. Là. Donc, le signal a été appelé le signal « Wow », parce que l'astrophysicien Jerry R. Eamon, qui l'a observé, a noté « Wow » sur le papier, à l'endroit où est-ce qu'il a vu la fréquence. Donc, c'est le nom que le signal a gardé depuis. J'avance en 1987 pour une sortie très importante au NES, un grand classique, Metroid. C'est très drôle que tu en parles parce que 87, c'est peut-être pour ça.
Oui, c'est en fait c'est le 30e anniversaire de Metroid. C'est pour ça qu'il y a plein de choses. Puis ils voulaient, idéalement, le remake, ils voulaient le sortir pour le 30e anniversaire.
Donc, il est sorti quelques jours avant le 30e anniversaire exact de Metroid.
Ce qui a permis d'être take down par Nintendo.
C'est la journée.
Oh, ça serait écœurant! Ça serait magique!
Mais soyons francs, ça va donner 29 ans à Metroid.
Ouais, c'est ça. C'est donc la 30e année, I guess. Voilà. Ou peut-être au Japon, là. Peut-être un truc du genre.
Ouais, parce que moi, c'est la sortie aux USA. J'avance en 1994. Benjamin Slivka, un programmeur chez Microsoft, envoie un mail à toute son équipe pour proposer de développer un navigateur web pour Windows 95. Oui, tous ceux qui ont eu à aider un parent ou un grand-parent qui utilise Internet Explorer, le mot 10 depuis cette date.
Y a-t-il une date aussi où ce que le gars commençait à dire à tout le monde de ne pas l'installer?
Je sais pas.
Ah, on revient avec ça.
Probablement le 23 août. Une semaine après.
Oui, c'est ça, c'est une couple de jours.
C'est le temps qu'il le développe. on s'entend, le 15 août, c'est comme le email, hey, on devrait faire ça. J'avance en 2000, sorti d'un jeu qui en aura déçu plusieurs quand on pense qu'il faisait suite à un si grand jeu, mais qui est quand même un très bon jeu si on passe par-dessus les attentes. Je parle ici de Chrono Cross au PS1.
Happy birthday to you.
Naissance en 1769 plutôt de Napoléon Ier, l'ancêtre spirituel de Régis Labeaume, qui pour une raison inconnue aimait se jouer après le nombril pendant ses portraits officiels.
Il y a tellement d'histoires de n'importe quoi, de pourquoi il s'attenait.
Aucune idée.
Voilà.
C'est juste très drôle que chacun de ses portraits, il a la main dans... Il joue après le nombril. Oui, 1912,
hey.
Naissance de Madame Julia Child, l'ancêtre spirituel des 322 chefs qui animent maintenant les maisons de cuisine à la télé.
Maudit sois-tu.
J'avance en 1925. Le musicien canadien Oscar Peterson, que notre génération connaît beaucoup plus pour ça. 0, 5, 4.
Pourquoi t'appelles Dieu?
Je veux savoir pourquoi de la neige arrive si tard cette année, là.
26,
0, 0. Oh, Dieu,
t'es
sûr que ça n'est
pas plus vite avec une prière? Je pense
qu'ils ne sont
pas engagés.
Ben non.
Oui, Dieu. J'avance en 1972 et c'est quand même très drôle parce qu'il y aurait eu un gag à faire avec toi, Mathieu, si j'avais su.
Et?
Naissance de Ben Affleck.
Matt Damon.
Qu'on voit souvent à l'écran aux côtés de Matt Damon.
Voilà.
Donc, un acteur qui est maintenant aussi le visage de Batman au cinéma. Et je ne ferai aucun commentaire là-dessus pour ne pas enflammer les internets web.
Merci.
J'y vais avec les prénoms du jour. J'en ai deux cette fois-ci.
Oh, chien.
Mais c'est Marie et Alfred. C'est une petite journée plate finalement.
C'est ça. Fuck it, on sort l'épisode plus tard.
Ouais. Par contre, je termine en souhaitant une superbe journée de fête nationale pour tous nos auditeurs qui seraient acadiens.
Oh! On est le 15 août. On a le droit de vivre les fous. On va fêter de Caraquette à Capelé. Fait que moi, cette semaine, j'ai vu que ça a l'air qu'on parlait pas beaucoup de jeux, hein? je vais remédier à ça. J'ai choisi de vous présenter mon top 3 des jeux de SNES jamais sortis en Amérique. J'ai choisi 3 jeux qui sont jouables sans patch de traduction, donc qu'on peut vraiment prendre une cassette, importer et y jouer. bon, ça ne tient pas en compte le coût de ces jeux-là, parce que c'est un peu ridicule.
Oui, puis essayez pas de la jammer dans votre SNES nord-américain non plus. Là,
ouais, ça demande un minimum de modification. Là. Mais bref, c'était surtout une façon de parler de jeux de SNES importés, autres que Bahamut Lagoon, Seiken Densetsu 3, les Fire Emblem, puis Star Ocean, qu'on voit tout le temps dans ce genre de liste-là. Fait qu'arrachez-moi pas en tête si je parle de votre jeu préféré, là, je pense qu'ils ont déjà été couverts en masse par d'autres mondes. Puis si ça vous intéresse tant que ça, on en parlera une autre fois. Fait que je vais commencer avec Terranigma, publié en 1995 au Japon par Enix et en Europe en 1996 par Nintendo eux-mêmes. Ce qui veut donc dire que le jeu a été localisé en anglais, en français, en allemand et en espagnol, ce qui rend encore plus étrange et triste que le jeu soit jamais sorti ici.
Quand on pense que, tu sais, on s'entend que les RPG avaient à l'époque une grosse popularité aux États-Unis, là.
Oui, ça a commencé à lever, là, justement. Puis surtout tard comme ça dans le cycle du Super Nintendo, là. Tout à fait. Mm. Puis surtout Enix. Bon,
ben oui.
Il y avait des croûtes à manger en Amérique à ce moment-là. Bref, le jeu a été développé par Quintet. Puis c'est le troisième jeu dans ce que les fans de Quintet ont appelé la Soul Blazer Trilogy, qui comprend Soul Blazer et Illusion of Gaia. Ce qui est encore plus étrange qu'il soit jamais sorti ici.
Je savais pas que c'est dans le même...
Ça, je connais les autres, je connaissais pas Terranigma.
Voilà. Ben c'est ça, c'est vraiment weird. T'sais, on est deux autres, mais non, fuck it, le dernier, on le rentre pas. Puis comme les deux autres jeux de la série, ben c'est un action-adventure RPG semblable à Zelda, mais avec un peu plus d'éléments d'RPG, là, si ça vous aide à cibler le genre de jeu. Les trois jeux sont des suites, un peu dans le même sens que les Final Fantasy sont des suites. Le seul véritable lien entre les jeux de la série, c'est thématique. Il y a toujours un conflit entre la création et la destruction. Bon. L'histoire de Terranigma, par contre, c'est clairement la plus intéressante des trois jeux de cette série-là. On incarne le personnage de Ark, qui habite dans un village à l'intérieur du monde, qui, après une suite d'événements, doit ressusciter les continents de la surface et assister l'évolution de la vie sur Terre et des civilisations. J'irai pas plus loin que ça, mais l'histoire s'arrête pas là, puis il y a un conflit plus important derrière tout ça. Le jeu, évidemment, joue de façon très, très, très semblable à Soul Blazer et Illusion of Gaia. Donc, on a semblable à Zelda, c'est-à-dire... en fait, contrairement à Zelda, on a un plus grand focus sur le combat et un focus aussi important, par contre, sur les puzzles. Le jeu est très très beau vu qu'il est sorti tard dans la vie du SNES. Puis juste dans le premier chapitre, là, la carte du monde typique des RPG est représentée, elle représente l'intérieur du monde, ce qui fait que la courbe de l'horizon monte vers le haut. C'est saisissant comme effet la première fois, puis ça nous fait nous questionner beaucoup sur ce qui se passe dans le jeu à ce moment-là. Puis à chaque événement majeur dans le jeu, on a droit à des images en 3D pré-rendues, ce qui est assez rare à l'époque, pour marquer chacun des événements marquants quand on restaure au début, là, pour pas faire de spoilers, quand on restaure les continents, puis d'autres événements par la suite. Côté audio, on a un soundtrack qui est très, très, très varié, qui sert bien l'histoire. Évidemment, il y a plein de références à des musiques traditionnelles des différentes cultures qu'on va visiter au cours de l'histoire du jeu. Mais en plus de ça, la musique est vraiment excellente, là. Un des premiers thèmes qu'on entend dans le jeu et qui est un de mes préférés, celui de l'Underworld.
Puis sérieusement, très très disappointed que ce jeu-là n'a jamais sorti ici. Là.
Toi et tellement de monde.
Oh oui.
Il serait dans le palmarès de beaucoup de gens. Comme
c'est dans mes cordes tellement. Là,
c'est comme, je veux pas m'avancer dans l'histoire, là, mais le gameplay est extrêmement solide. Puis l'histoire est au-delà de beaucoup de choses qu'on a vues sur la plateforme à l'époque.
J'ai le goût de dire Be Right Back, buying a Famicom. Je vais m'acheter une Famicom puis je reviens.
Je vais parler des repros un peu plus tard, justement, parce que ça concerne les trois jeux. Puis c'est relativement accessible.
Puis tu sais qu'il était beau, il est vraiment beau. Là.
Le jeu est très, très beau. Puis sérieux, là, je l'ai mentionné en passage, parce que tu t'arrêtes pas là pendant des heures, mais la carte inversée à l'intérieur du monde, là, c'est. T'sais, tu te poses des questions. Là. C'est vraiment un effet qui est très, très, très différent. C'est super simple. Mais ça t'établit tout de suite le ton que tu vas jouer quelque chose qui n'est pas standard. Non, un excellent jeu. La recommandation est excessivement facile. Puis, même pour un jeu de ce genre-là, on parle de 15 à 20 heures. Ce qui est, si on compare à Zelda, c'est du stock. Là.
Oui, puis on compare des RPG comme d'autres RPG. Puis c'est c'est gérable.
Ouais, c'est ça, tu te dis, ouais, je pense que je peux le faire, je peux jouer. C'est ça, donc c'est très très long pour la moyenne de ce genre de jeu-là, par contre. Puis pour finir, une petite note un peu plus intéressante sur la musique. Il y a des gens qui disent que la pièce Light and Darkness a possiblement inspiré le thème d'un jeu très populaire qui est arrivé bien des années plus tard. Je vais vous donner premièrement le terme Light and Darkness à vitesse normale. Avez-vous des guesses à faire sur Light and Darkness? C'est bon, je vous...
Ça me rappelle quelque chose, mais...
Je vous le donne à 2,5 la vitesse, suivi de la réponse.
Super Smash Brothers Melee!
Ok, ouais.
Ça a des heures de famille.
Il y a quand même une fille.
Ensuite, pour mon deuxième jeu, je vous offre The Fireman, développé et publié par Human Entertainment en 1994. Jamais entendu parler d'eux autres. mais ils ont des jeux qui sont très populaires, dont la série Clock Tower, qui était au Super Nintendo et en PlayStation 1. Pas des jeux que je suis familier, mais je sais qu'il y a un gros following pour ces jeux-là. C'est un autre jeu qui est sorti au Japon et en Europe, donc aussi complètement traduit pour le marché européen. Qui fait encore que c'est frustrant qu'on ne l'ait pas eu en Amérique. C'est un top-down shooter, donc la vue est semblable à Zelda ou ben de Terranigma rendu là, sauf qu'on doit tirer de l'eau sur du feu. Parce que oui, on joue des pompiers. On joue en fait un pompier.
C'est bizarre comme gameplay, je comprends pas le lien.
On joue un pompier qui s'appelle Pete, qui ressemble quand même étrangement à Mario là, avec sa grosse moustache. Ah. Puis on doit entrer dans une usine en feu et sauver les survivants à l'intérieur à l'aide de notre équipe de 4 autres pompiers. À noter aussi que ça se passe à Noël, ce qui fait qu'il y en a qui disent que c'est comme le Die Hard des pompiers. Prenez ça comme vous voulez. L'histoire est très simple. On a une belle petite page de texte d'exposition au début qui présente des points de l'histoire qui vont même arriver plus tard. C'est quand même un peu weird, là. On dirait que le département d'histoire puis de traduction, c'est pas vraiment parlé. Mais la première phase de l'intro, en fait, c'est « Nous sommes en 2010. En 2010, la civilisation a peu progressé ces 20 dernières années. » Peut pas bien dire qu'ils ont tort là-dessus.
Ouais,
Il prédisait l'avenir. Ce qui rend le jeu unique, ben, c'est assez évident. Là. C'est pas tous les jours qu'on voit un jeu d'action où on incarne un pompier, puis encore moins un bon jeu où on incarne un pompier. Le jeu est divisé en 6 tableaux, qui représentent le building au complet, à peu près divisé là, en étages. Chaque tableau a une limite de temps, qui est assez généreuse, mais pas trop. Il faut explorer un peu si on veut sauver les survivants qu'on trouve sur les différents étages. Mais le timer à l'écran, en haut de l'écran, nous rappelle qu'il faut se grouiller le cul. Les ennemis sont principalement du feu, qui se déplacent dans différents patterns puis qui sont vulnérables à l'une ou l'autre de nos attaques. Soit le jet d'eau en ligne, qui est comme le tir standard, là, ou un spray qui va tirer plus au sol. Donc, quand il y a du feu qui reste au sol, il faut absolument le tirer avec notre arme secondaire. Puis il y a certains patterns d'ennemis qui vont être plus faciles à battre avec cette arme secondaire-là. Fait que ça devient une gestion de nos types de tirs. Il y a aussi des robots de ménage, des bras automatisés qui, comme toute bonne machine, quand elle pogne en feu, ben, elle se met à mal fonctionner puis devient imprévisible. Une autre prédiction exacte du jeu, hein, d'ailleurs. On a toujours aussi Danny, notre partner, qui nous accompagne.
Salut!
Hey. Lui, il sort de sa hache pour absolument tout.
Yes.
Fait qu'il bûcheronne le feu. Okay? Yes. That's it. Mais au moins, c'est un partner qui est contrôlé par l'ordinateur, qui fait bien sa job puis qui est pas dans les jambes.
Contrairement à Dan! Hey.
Fait que à partir du troisième tableau, il faut garder un œil sur les backdrafts. Parce que quand on ouvre les portes, ça fait un effet là. Bref, il y a comme un gros rond qui apparaît à l'écran, puis ça te fait perdre comme la moitié de ta vie, puis ça te fait traverser la moitié de l'écran au point tel que tu peux même quitter l'écran puis revenir dans d'autres pièces.
Comme dans la réalité, là, le backdraft. C'est
mais ça devient un
retour
point...
de flamme, je pense qu'il l'appelle en français. Là,
ouais. Moi, je pense juste à Kurt Russell, puis Backdraft, le film. Non,
j'ai pas vu.
Puis, oui. Mais ça se manège-tu dans le jeu? Tu peux-tu les éviter?
Ouais, ben, ce qui est un petit peu des fois. Dangereux, c'est que c'est toujours Danny qui ouvre les portes, c'est toujours ton partner. Ce qui fait que, oui, il va toujours ouvrir une porte quand t'es proche. Sauf que des fois, tu peux juste approcher une porte puis pas penser que tu t'en vas à traverser. Puis là, t'as le petit. Puis là, t'as le rond à l'écran, t'es comme, ah, je suis pas assez loin, hein. Puis tu revoles tellement. Fait qu'il faut faire attention à la proximité des portes à partir du troisième tableau. Il y a même un bout où ce qu'on est sur la passerelle, sur le top du bras d'un camion de pompiers. Puis il y a des petites boules de feu qui arrivent de toutes les directions, puis il faut se défendre. Super réaliste. Puis, pour continuer dans l'hyper réalisme du jeu, ben, il y a des boss fights. Hein? C'est typique pour le genre de jeu, mais c'est toujours drôle de se battre contre une tornade de feu qui a des différents patterns.
Avec des requins dedans?
Non. Non, je viens de vérifier, puis non.
Non.
un autre point qui rend le jeu très, très unique, on s'en rend compte très rapidement, ça fait pas l'unanimité, là, mais c'est que même si l'histoire est assez simple, les personnages parlent beaucoup, beaucoup pendant le jeu. Ce qui fait que la narrative, elle nous suit tout le long, à chaque instant. On voyait pas vraiment ça dans les jeux d'action à cette époque-là. C'est un petit côté un dessin animé japonais, là, puis des fois, le dialogue est un petit peu évident. Là, genre, la porte est barrée, va à l'autre porte qui est sur l'autre bord de la pièce. Mais ça donne une présentation qui est très, très vivante à The Fireman. Puis côté musique, la seule façon de décrire ça, intense. On dirait qu'il savait que c'était dur de vendre un jeu d'action parce que ton ennemi se sac complètement de toi. Fait qu'on compense avec de la musique intense, comme ça.
Cœur, hein?
J'aurais pu prendre n'importe quel tableau, là. C'est tout de même.
C'est intense en temps. C'est
hard rock. Là. C'est...
Ouais, c'est hard rock, puis on dirait vraiment que le compositeur, il a juste comme mis une track de fond, puis qu'il a improvisé sur un keyboard. Là. C'est pas toutes des mélodies très très recherchées, mais c'est comme des gros jams vraiment intenses. Il y en a des plus intenses. Je suis dans les premiers tableaux du jeu, là, puis ça grimpe plus que ça avance. Puis finalement, pour fermer la boucle sur ce jeu-là, il y a une suite en PS1 intitulée Fireman 2 Pete and Danny. Bon, c'est un petit peu ordinaire. À ce que j'ai lu, là, ça serait, le titre serait vraiment inférieur au premier. Donc, c'est à essayer seulement si vous en voulez plus quand vous allez avoir fini de jouer à The Fireman. Et pour ma recommandation finale, le jeu qui m'a donné envie de faire ce segment-là, que je connaissais même pas il y a deux semaines, on parle de Magical Poppin. C'est P-O-P-N.
Parce que
Japon. Hein? Sorti en 1995, développé par Polestar et distribué au Japon seulement par Pakin Video. Encore une fois, des noms qui me disent absolument rien. Contrairement aux deux autres jeux, il n'y a pas eu de sortie en Europe. Mais il n'y a aucun texte dans le jeu. Donc on peut très très bien jouer une copie japonaise si on est assez maniaque pour se la payer. Le site Destructoid, dans une série d'articles nommés « It Came From Japan », avait présenté ce jeu-là en disant « Magical Poppin est la raison pour laquelle nous faisons cette série d'articles. C'est le jeu importé rare qui justifie toute la hype qui l'entoure. Détrompez-vous, si ce jeu avait eu une sortie nord-américaine dans les années 90, Magical Poppin serait régulièrement mentionné comme un des meilleurs action platformers de son époque. » Fait que c'est, oui, un...
C'est pas rien, là.
C'est un platformer d'action. C'est un platformer d'action qui se situe à l'intersection des Castlevania, Super Mario World et Super Metroid. On pourrait le décrire comme un Metroidvania Lite, mais j'y reviens. La présentation est très, très, très colorée et très cartoony. On joue le rôle d'une princesse magicienne chibi là, qui part à la poursuite d'un magicien qui vient d'attaquer son royaume. C'est pas mal tout ce qu'on sait. Les personnages sont super colorés et bien animés. Les backgrounds manquent un peu de détails, mais le focus est clairement sur ce qui se passe à l'avant-plan. Puis ce qui se passe à l'avant-plan, comme je disais, ben c'est un Metroidvania Lite. Je m'explique. Le jeu est divisé en 6 tableaux, mais chaque tableau offre beaucoup d'exploration et sont de plus en plus grands en avançant. Dans chaque tableau, il y a un power-up qui est nécessaire pour progresser. Donc, une attaque de feu qui fait fondre la glace, un grappin qui nous permet de nous balancer sur des crochets un petit peu à la Bionic Commando, un espèce de spin à la Sonic qui nous permet de grimper sur des murs, etc. Donc, on a la progression qui est semblable au Metroid, mais pas de backtracking. Puis tout ça, c'est bien cute, là, mais le jeu serait pas en tête de liste s'il n'y avait pas les contrôles les plus précis, rapides et satisfaisants que j'ai eu le plaisir d'utiliser.
J'aime le satisfaisant.
Surtout West Ness, là.
Ben, on s'entend, là, des jeux avec des bons contrôles au SNES, la liste, il en manque pas de titres dessus, là. Je les classe comme les meilleurs contrôles que j'ai eu sur cette plateforme-là. Le jeu devrait être l'exemple, carrément, de contrôle pour un action platformer. Je sais que ça va sonner un petit peu comme un blasphème, là, mais ça me donne le feel un peu des jeux de Genesis au terme de la vitesse que ça a. On a une très très bonne variété de mouvements. On peut attaquer dans les quatre directions. Donc, quand on est au sol, on peut attaquer en l'air. Puis quand on est dans les airs, on peut faire une attaque par en bas à la Zelda 2, là. L'attaque Pogo, là.
Puis j'aime mieux l'appeler l'attaque Shovel Knight maintenant que j'ai joué à Shovel Knight.
J'accepte. Puis on a des power-ups. Comme je disais, les power-ups qu'on accumule à chacun des tableaux deviennent des outils à notre arsenal. Puis pour chacune des attaques spéciales, on a une attaque, je vais dire, super spéciale qu'on obtient en pesant Select puis qui consomme plus de mana. Donc on a beaucoup, beaucoup de variété à nos actions. Puis chaque tableau a plusieurs mini-boss et un boss final. Ils sont toujours satisfaisants, même s'ils ne sont pas toujours très difficiles une fois qu'on comprend les patterns. Parce que j'entends dans les reviews, dans les commentaires des fans que j'ai lus, il y a beaucoup de monde qui louange les boss fights. Je suis un petit peu ambivalent. Ils sont le fun, mais je les ai toujours trouvés assez simples, à part quelques-unes. Tu peux utiliser des power-ups pour un peu cheeser ton chemin à travers les mini-boss, mais ça n'enlève rien au jeu. Puis d'ailleurs, les mini-boss se méritent la toune la plus badass de tout le jeu.
Ça a un petit feeling genre Metallica S.
Ouais, c'est ça.
Metallica, mais comme au Super NES.
Ouais, c'est ça, c'est l'influence rock'n'roll racing.
C'est bon.
Puis le reste de la musique est très, très, très catchy. Il y a quelques tunes qui sont un petit peu naïves, enfantines. Mais quand tu es en train de jouer, dans le look du jeu, ça passe très bien. J'ai choisi une couple d'extraits dans les pièces que je préférais.
C'est le fun, c'est super différent, là. C'est diversifié. Là.
C'est ça, puis j'ai même pas pris ceux, comme je disais, qui étaient plus happy-go-lucky, là, qui étaient plus énervés. Là. Non, c'est un super beau soundtrack, mais c'est aussi c'est un jeu qui est arrivé relativement tard dans la vie, donc il connaissait mieux la plateforme à ce moment-là. C'est pas un jeu qui est très long, on parle environ 4 heures. C'est tout bien parce qu'il n'y a pas de sauvegarde et pas de password anyway. Fait, c'est le genre de jeu qui fait que tu laisses ta console allumée, puis t'éteins ta TV. Et tu reviens plus tard. Évidemment, comme c'est des jeux qui sont jamais sortis ici, évidemment, c'était ça le but de la maudite chronique.
Ben,
hein?
C'est ça l'idée.
Et voilà. Fait que c'est sûr qu'il y a plusieurs façons de jouer, là. J'ai dit qu'évidemment, si on les importait, c'est des jeux qui sont jouables. Mais malgré ça, c'est pas réaliste pour la plupart du monde. Il y a toujours l'émulation. On s'embarque pas là-dedans. C'est pas quelque chose qu'on va discuter sur le show. Mais il y a des reproductions. Bon, ça aussi, c'est une légalité qui est très, très grise. C'est sûr que le côté moral d'un jeu qui n'est jamais sorti ici et qui n'est pas disponible devient plus acceptable, mais considérez toujours que c'est quand même pas légal. Cela dit, par contre, une repro d'un jeu de Super Nintendo qui n'a rien de spécial, à part un battery backup, une sauvegarde, comme si on parle de Terranigma, considérez que ça vaut à peu près 40$, une repro de qualité, si on ne tombe pas dans les marchés chinois. Au Canada, il y a jcretail.ca qui offre des repros qui sont d'assez bonne qualité en général. Plusieurs membres de la communauté pourraient en témoigner. Et présentement, au moment de l'enregistrement, Magical Poppin est disponible à 29,99$ sur jc retail. C'est pas un achat trop gourmand. Hein? Et Terranigma à 39,99$. Eux, ils tiennent pas présentement à Fireman, par contre, mais vous pouvez le trouver sur plein d'autres sites du genre.
Good show!
Donc,
hey!
Pour trouver nos derniers épisodes au divanquest.com, ça n'a pas changé ça, avec le nouveau format. Pour du feedback, du hate mail, des commentaires sur le nouveau format, hein, si vous voulez nous dire que vous aimez ça, que vous n'aimez pas ça, nous traiter de mongols, comme vous voulez.
Bah, les mêmes commentaires qu'avant, finalement.
Ouais, c'est ça. Sur Twitter, au Twitter.com /DivanQuest. Sur Facebook, au Facebook.com/DivanQuest. Par courriel, au DivanQuest@gmail.com. Le podcast est disponible avec un paquet d'autres podcasts québécois au rzoweb.com, aussi dans la playlist de Pod Québec au podquebec.com. Aussi sur iTunes, je vous rappelle un peu pourquoi on est fatigué avec iTunes, même si c'est une plateforme que personnellement j'aime pas trop. Là. Ça reste une plateforme qui est utilisée par beaucoup de monde pour les podcasts. Puis quand vous nous donnez un bon review sur iTunes, le podcast se retrouve mieux classé dans leur liste. C'est plus facile pour quelqu'un de le trouver par hasard. Donc ça nous aide à avoir plus de monde qui nous écoute. Puis on fait ça quand même pour du monde qui nous écoute. Hein, ça nous motive. Donc allez faire un petit tour sur iTunes, un petit commentaire, les 5 étoiles, on va être content. Et je vous laisse sur les mots d'un grand sage. Jusqu'à la semaine prochaine.
Game on!
Game on!